Seigneur, merci pour ce temps encore avec toi et devant ta parole, Seigneur, et que tu nous bénisses, s'il te plaît. Seigneur, nous t'invoquons chaque jour et ce matin. Seigneur, fais-nous du bien. Merci parce que tu nous as pas laissés seuls. Tu nous as donné le Saint-Esprit et tu nous as donné cette parole vivante, cette parole. Tu es toi-même parole incarnée, Seigneur, et c'est toi, Seigneur, qui es au travers de ces Écritures. Et bénis-les à nos cœurs encore ce matin, s'il te plaît. Merci de me garder et de m'inspirer en toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, on a vu la semaine dernière les trois premières lettres adressées aux églises dans l'Apocalypse. Donc, il s'agissait de l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne et l'église de Pergame. À chaque fois, on a vu, il y a un message qui est adressé d'abord à l'église du 1er siècle, donc c'était il y a 2000 ans, 1er siècle, et puis ensuite il y a une église adressée aux églises dans le temps, puisque sur 2000 ans d'histoire de l'église, on voit que chaque église locale qui sont nommées là correspondent à des périodes de l'histoire de l'église. C'est éblouissant même, hein. Quand on commence à faire les parallèles, on est saisi de se dire, mais incroyable, incroyable. Et puis on a vu aussi que nous pouvons en faire une application à nous aujourd'hui. Alors, est-ce que nous sommes un chrétien d'Éphèse, ayant perdu notre premier amour? C'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. Est-ce que nous sommes un chrétien de Smyrne, qui passe par la persécution? Est-ce que nous sommes un chrétien de Pergame, qui se laisse corrompre par ce monde ambiant? Et ce matin, sommes-nous un chrétien de Thyatire? Donc, on va voir les trois lettres suivantes. On en a vu trois, on va en voir trois ce matin. Alors, première lecture, Apocalypse 2 et versets 18 à 29. Apocalypse chapitre 2, versets 18 à 29. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, dans cette première lettre, on voit d'abord le Fils de Dieu qui est celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Et on se dit, mais qui peut soutenir un tel regard? Vous voyez, l'apôtre Jean qui a écrit cette lettre, c'était l'ami de Jésus. C'était celui qui posait sa tête sur le sein de Jésus. C'était celui qui aimait Dieu, qui marchait avec Dieu. Il a une vision du Fils de Dieu dans le premier chapitre et il voit justement le Seigneur qui le regarde avec des yeux comme une flamme de feu. Et qu'est-ce qui se passe? Il s'effondre. C'était un proche de Jésus, mais il s'effondre, pétrifié. Il est pétrifié. Il tombe à ses pieds comme mort. Un regard pénétrant, un regard qui vient juger les sentiments, les pensées du cœur, et voilà, il s'effondre. Jésus est aussi celui dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Dans la Bible, quand vous prenez l'airain, c'est toujours synonyme de jugement. Et donc là, ça vous donne un petit peu voilà, les premières paroles pour entrer dans cette lettre à cette église de Thyatire. Alors au départ, c'est de nouveau une reconnaissance marquante des qualités du chrétien de Thyatire. C'est quelque chose. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Si on s'arrête là, on se dit, waouh, c'est des chrétiens, ils sont bien, hein, difficile de dire mieux. Humainement, on se dit que c'était des chrétiens sérieux, fidèles. Ils aiment. Est-ce que ce n'est pas là le premier commandement? Ils aiment. Ils ont foi. Et Jésus reproche même à ses disciples de manquer de foi. Eux, ils ont foi. Ils servent avec constance, avec persévérance. Ils ont même progressé dans les bonnes œuvres. Donc c'est voilà, difficile de faire mieux quand on voit ça. Verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Qu'est-ce qui ne va pas ici ? Jézabel, c'est la princesse de Sidon, celle qui s'est mariée avec Akab, le roi d'Israël. Donc c'était une femme païenne, et c'est elle qui a institué le culte à Baal, le faux dieu. C'est elle aussi qui a tué, sacrifié les vrais prophètes de l'Éternel. Et puisqu'elle a mélangé l'immoralité, l'idolâtrie avec l'adoration du vrai Dieu, du Dieu d'Israël, Jézabel, on peut dire, elle symbolise l'idolâtrie païenne et la superstition au sein de l'Église. L'idolâtrie païenne et la superstition au sein de l'Église. Ça vous laisse entrevoir de quelle Église il s'agit. L'Église catholique. Mais quelle est la racine du problème? Regardez la racine du problème. La racine, c'est un certain laxisme qui permet à quelqu'un d'illégitime, quelqu'un qui n'a pas sa place, et même qui n'a rien à faire à une position d'enseignant dans l'église locale. On laisse eh bien, quelqu'un prendre la parole et enseigner des choses qu'il ne faut pas enseigner. Ça, c'est la racine. Et le chrétien de Thyatire, c'est une bonne personne. Fidèle, aimant, constant, serviable. Mais on pourrait dire le problème, c'est qu'il n'est pas tranché. Il n'est pas assez clair sur la doctrine. Il est entre deux eaux. Vous savez, on a peur de froisser, on n'ose pas trop dire. Alors, on ne dit pas les choses. On ne dit pas. Et on imagine tout ce qu'il y a derrière ce prénom de cette femme prénommée Jézabel. Comment elle a pu avoir cette position d'autorité, de prophétesse, d'enseignante? Tout simplement parce que personne ne lui a rien dit à Thyatire. On ne lui a pas dit non. On ne lui a pas dit non. Personne n'a mis de limite. Et le chrétien de Thyatire, il ne sait pas dire non. Il laisse faire. Il n'ose pas. Mais en disant toujours oui, on ouvre la porte toute grande au diable qui lui s'engouffre. Il s'engouffre. Un peu plus loin, notre Seigneur parle des profondeurs de Satan. Vous imaginez cette expression? Les profondeurs de Satan. Et on voit où tout cela, ça peut mener à laisser faire, en fait. Quand on laisse faire, on devient tolérant. C'est bien la tolérance. Mais quand on devient tolérant, mais dans une mauvaise manière, si tolérant qu'on accepte tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Le chrétien de Thyatire, il se dit, l'idolâtrie, c'est pas si grave que ça, quoi. Hein. Il se dit, une prière à Marie, c'est pas un péché en soi, quoi. Hein, faire une prière à Marie. Il se dit, l'important, c'est de croire en Jésus. Vous croyez en Jésus? C'est l'important. Et il pense, le chrétien de Thyatire, que le christianisme, il englobe tous ceux qui croient en Jésus. Tous ceux qui croient en Jésus, même s'il y a du péché, même s'il y a de l'idolâtrie, même s'il y a des blasphèmes. Et non. Et dans la vie chrétienne, il faut savoir dire non et s'opposer à ce qui est mauvais, à ce qui n'est pas conforme aux Écritures. Dieu veut qu'on soit doux et humble, bien sûr. Hein. Il veut qu'on soit bon, il veut qu'on ait foi, il veut toutes ces choses. Hein. Mais il ne veut pas seulement ça. Il ne veut pas seulement ça. Et vous trouverez beaucoup de personnes qui sont comme cela dans le christianisme. Elles ont foi, elles sont bonnes, elles sont pleines de bonté, de douceur, d'amour, etc. d'une manière générale. Et le Seigneur veut ces choses. Mais il veut aussi qu'on sache dire non. Non à l'erreur. Non au mensonge. Non à la fausse doctrine. Non à la chair aussi. Qui parfois, la chair voudrait mener la danse. Hein. Non. On dit non. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Tu laisses faire. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous laissez faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui vous ne savez pas dire non? Alors que vous voyez bien que c'est quelque chose de mauvais. Et du coup, vous en êtes vous-même souillé, affecté, perturbé, parce que l'autre fait, dit, enseigne, propage dans votre vie, dans la celle de vos proches ou ailleurs. Est-ce que la vérité, ce n'est pas quelque chose d'absolu? Oui, c'est absolu. Est-ce que vous pensez que dénoncer l'hérésie, c'est être un juge? Ah, il ne faut pas que je juge. Non. Non. Le Seigneur tranche. Vous savez, le problème, c'est que le mal et l'erreur que l'on ne condamne pas, ça finit toujours par prendre une emprise, en fait, nous influencer, nous toucher d'une manière ou d'une autre. Et Jésus ne peut pas accepter ça dans la vie de ses enfants. Regardez verset 22. Il dit, « Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. » Et donc, notre Seigneur prévient ce qui va se passer pour Jézabel et pour les chrétiens qui la suivent. Ils seront jetés sur un lit, et le lit ici, c'est un lit de maladie, c'est un lit d'épreuve, c'est un lit de souffrance. Et tous ceux qui la suivent connaîtront le même sort. Et le chrétien qui est laxiste ou qui est libéral, qui ne juge pas le mal, qui ne juge pas l'hérésie, le blasphème, l'idolâtrie, eh bien, il finit par tomber lui-même sous le jugement de ceux qui sont condamnés à cause de ces choses. Vous savez, le christianisme, il représente 2 milliards 420 millions de personnes dans le monde. C'est énorme! 2 milliards 420 millions. On est sur le christianisme très large, bien sûr, mais c'est le christianisme. Un tiers de la population mondiale. C'est plus que l'islam, hein. Ou je ne sais plus, ils sont dans 1 milliard 600 millions, 700 millions. 2 milliards 400 millions de personnes se revendiquant du christianisme. Et pourtant, Jésus a dit, entrez par la porte étroite. Et, pardon, je prends le contraire. Je vais prendre le verset dans le bon sens. Hein. Il a dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Mais, étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Est-ce que 2 milliards 420 millions, c'est peu? Non, c'est pas peu. La réalité, c'est que ce n'est pas peu. Ça veut dire que tous les chrétiens du monde, même s'ils sont aimants, même s'ils ont une certaine foi, même s'ils font de nombreuses œuvres, même s'ils sont constants, même s'ils sont persécutés, eh bien, ils ne sont pas forcément enfants de Dieu. Ils ne sont pas forcément des chrétiens, vraiment, nés de nouveau. Ils sont sur un chemin large. L'Église du Seigneur, eh bien, il y en a peu qui trouvent cette porte et qui trouvent Jésus-Christ. Et de nouveau, le Seigneur nous parle de la seule issue à un tel problème. Quelle est la seule issue? On retrouve cela dans 5 des lettres. C'est la repentance. Il dit « à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres ». Et il faut se repentir pour connaître la délivrance et le salut en Jésus-Christ. Repentance pour l'idolâtrie, repentance pour celui qui va laisser faire, qui laisse faire. Est-ce que vous avez besoin de vous repentir d'un certain laxisme, d'un certain libéralisme, d'une attitude qui laisse un peu trop faire? Est-ce que vous voulez être un peu trop conciliant? Si vous le faites, eh ben vous vous retrouvez du mauvais côté. C'est ce que disent les Écritures. Vous vous retrouvez du mauvais côté. Alors toutefois, à Thyatire, il y a quand même quelques chrétiens à qui on ne pouvait pas reprocher cela. Regardez verset 24. Il dit « À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez. Retenez-le jusqu'à ce que je vienne. » Alors, là, il cite ce verset sur les profondeurs de Satan. Il faut savoir discerner quelles sont les profondeurs de Satan. C'est quand même, on se dit que, en fait, les profondeurs de Satan, elles se cachent derrière de l'amour, de la foi et des bonnes œuvres. Faut pas l'oublier, hein. Faut pas être trompé. On se dit, oh mais quand même. Mais il y a les profondeurs de Satan qui sont derrière. Hein, ne soyez pas dupes. Mais celui qui repousse les fausses doctrines, qui dit non aux mensonges, qui retient ce qu'il a, alors eh bien toute la suite nous parle du règne, hein. Il règnera avec Christ et ça nous parle du millénium, hein. On sera associé au règne de Jésus-Christ. Apocalypse 3, versets 1 à 6. Apocalypse 3, versets 1 à 6. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, qui est le chrétien de Sardes? Qu'est-ce que Jésus dit de lui? D'abord, il dit, je connais tes œuvres. On a vu, hein, souvent le Seigneur, il commence avec cette phrase, je connais tes œuvres. Mais elle est à double sens, hein. Il dit parfois, je connais tes œuvres dans un sens positif. Ça veut dire, je vois bien ce que tu fais. Mais le Seigneur peut dire aussi « je connais tes œuvres » dans un sens négatif. Autrement dit, « je sais ce que tu fais, je vois ce que tu fais ». Et c'est plutôt dans ce sens-là qu'il parle à l'église de Sardes. Parce qu'il dit juste après « je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort ». Et là, on est devant un christianisme trompeur, hein, quelqu'un qui va passer pour être vivant. Il passe pour être vivant. Ça veut dire que il a tout d'un chrétien en apparence. Certainement, il fait ce qu'il faut. Certainement, il va à l'église le dimanche matin. Il a peut-être aussi un vocabulaire biblique dans la bouche. Peut-être qu'il a même une Bible sous le bras. Alors là, on se dit, oh, quand même, il a une Bible sous le bras. De l'extérieur, on se dit, ça c'est un chrétien. Mais la réalité, c'est qu'il est mort. Il n'a pas de communion avec Jésus-Christ. Il n'est pas né de nouveau. Il n'a pas la vie, il n'a pas le salut. Et ça, c'est une autre réalité du christianisme. Ce n'est pas parce qu'on fréquente une église protestante ou une église évangélique même qu'on est automatiquement un chrétien, automatiquement sauvé. Hein. C'est pas parce que vous venez à l'église que vous êtes sauvé. Qu'est-ce que dit le Seigneur? Il dit, verset 2, « Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Affermis le reste qui est prêt de mourir, on se demande comment on peut le comprendre, mais on peut aussi le traduire par « Sois vigilant et affermis ce qui te reste. » Ce qui te reste et qui est prêt de mourir. Et donc, ce qui menace que tu perdes, les petits restes qui te restent là, attention, sois vigilant, il ne te reste pas grand-chose, affermis-le, sinon tu vas perdre même le peu que tu as. Affermir, c'est rendre ferme, c'est rendre solide. Et la vie de ce chrétien, eh bien, elle n'a rien de consistant, elle n'a rien de solide, c'est du vent. Ça a la couleur de la foi, mais c'est pas réellement la foi, c'est un subterfuge, c'est faux. Et donc, il faut affermir ce qu'il a pour que cela devienne du solide. Verset 3, il dit, « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. » Alors, si vous replacez ça dans le contexte, c'est quand même intéressant de le dire, c'est que cette église de Sardes, elle nous renvoie à l'église protestante. Et je trouve très intéressant quand elle dit « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. » C'est la réforme, c'est Luther, c'est Calvin, c'est Zwingli, c'est les conversions. Hein? Ça, c'était le début. Mais les œuvres n'étaient pas parfaites. On a laissé des choses aussi... dans le protestantisme, et voilà, et puis petit, ça s'est étiolé, puis ça finit par mourir. Et après, on passe pour être vivant, mais on est mort, on est mort. Et il y a encore des chrétiens de Sardes aujourd'hui, des morts qui passent pour être vivants. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Se souvenir du commencement. Comment a-t-on reçu et entendu la parole de Dieu? L'origine de tout, c'est les Écritures, c'est la parole. Dernièrement, j'ai reçu la lettre d'un collectif qui voulait donner des conseils aux églises chrétiennes. Alors, c'est gentil, hein. Mais il y avait toute une série de reproches, finalement, cachés à l'attention des églises. Et l'un des reproches, si on décortique, c'est d'être trop littéral, trop attaché aux Écritures. C'est quand même incroyable, quoi. Hein? C'est quand même fort. J'ai dit, bon, ben, je souhaite pas être abonné, quoi, qu'on m'ait pas demandé mon avis, hein. Trop attaché aux Écritures. Est-ce qu'on peut être trop attaché à la parole de Dieu? C'est pas possible. C'est pas possible. On ne le saura jamais trop. Le problème, c'est plutôt de ne pas garder la parole, de ne pas la serrer dans son cœur, de la délaisser. Ça, c'est le vrai problème. Alors Jésus dit, « Sois vigilant, affermis ce qui te reste, garde la parole et repens-toi de ton libéralisme, de ton hypocrisie. » Et la repentance, c'est toujours le cœur pour retrouver ce qui a été perdu. La repentance, c'est la seule voie qui permet de retrouver un Dieu favorable. Et si tu ne veilles pas, il dit, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Et là, quand vous lisez ce texte, vous vous dites qu'en fait, chaque lettre qui représente une église, qui représente des chrétiens, eh bien, c'est pour tous les siècles. C'est à la fois pour le premier siècle, c'est à la fois des périodes bien claires de l'histoire, et c'est en même temps tout le christianisme de chaque époque. Il y aura toujours des chrétiens de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie, de Pergame. Voilà, on est environné hein, de cela. Pourquoi? Parce qu'il parle d'une expression, il dit « comme un voleur ». Comme un voleur, ça fait référence à quoi? Au retour du Seigneur. Il va revenir comme un voleur. Hein? C'est le retour de Christ. Hein? Ça veut dire, eh bien, il y aura des chrétiens de Sardes au retour du Seigneur. Attention, tu seras surpris. Cependant, encore, verset 4. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Et comme dans toutes les époques, eh bien, il y a des chrétiens qui sont fidèles, qui marchent vraiment avec le Seigneur comme il l'attend. Et donc le Seigneur cite hein, ces quelques-uns qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ces quelques-uns, de nouveau, un petit nombre. Hein, le troupeau du Seigneur est un petit troupeau. Dans tous les siècles, c'est un petit troupeau. Ce n'est pas une grande masse de 2 milliards 420 millions. Mais ils marcheront avec Christ en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Pas qu'ils sont meilleurs que les autres, loin de là, mais ils ont appris à se repentir. Et ils croient de tout leur cœur dans le Seigneur. Verset 5, hein. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Versets 7 à 13, la troisième église pour ce matin. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, quel est le chrétien de Philadelphie? C'est le seul chrétien avec celui de Smyrne qui n'est pas appelé à la repentance. Alors, ils sont rares, ces chrétiens. Et probablement que ces chrétiens ne se reconnaissent pas eux-mêmes. Pourquoi? Parce que, vous savez, un cœur humble, eh ben, il est toujours repentant. Et il regarde son cœur et il sait qu'il a toujours des choses où il peut demander pardon au Seigneur. Hein. Je ne connais pas quelqu'un qui peut dire « Ah ben c'est bon, je suis arrivé hein. ». Ça n'existe pas. Mais avant de parler d'eux, Jésus se nomme dans l'introduction comme le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Alors elle est mentionnée simplement ici dans l'Apocalypse et dans un verset du livre d'Ésaïe. La clé, c'est le symbole du contrôle et de l'autorité. Et le fait que Jésus détient la clé, ça nous montre plusieurs choses. L'accomplissement de l'alliance faite avec David, et c'est lui qui est le chef de la nouvelle Sion, la nouvelle Jérusalem. C'est lui qui en a les clés, hein. C'est lui qui ouvre, il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Roi des Rois, c'est celui qui a la pleine autorité avec cette clé. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Et là, on voit Jésus qui est au-dessus de tous, de tout, et qui fait ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Il est vraiment au-dessus. S'il ouvre, qui va l'en empêcher? S'il ferme, qui va ouvrir la porte? Personne. Verset 8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom. Je m'arrête ici. Trois choses. Tu as peu de puissance, tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom. Peu de puissance, peu d'énergie, peu de force. Et l'église de Philadelphie, elle est petite peut-être. Elle se sent limitée, sans grande puissance. Est-ce que ce n'est pas là parfois votre sentiment aussi? Et le chrétien de Philadelphie, ben, il est faible. Il se sent aussi sans force. C'est pas quelqu'un qui en jette, qui brille. L'exemple même de ce chrétien, on pourrait dire, c'est l'apôtre Paul. Peut-être on voit Paul comme un serviteur exemplaire, et il l'était, sans aucun doute. Hein. Mais comment lui se voyait lui-même? Peut-être il se regardait pas lui-même. Hein. Mais quand il se regarde, il dit « Je suis faible. Je suis faible. » Mais quand je suis faible, ben, alors c'est là où je suis fort. Hein. Et peut-être qu'on est avec peu de puissance, mais tant mieux, j'ai envie de dire. Peu de puissance, mais garder la parole de Dieu. On revient sur ça. Garder la parole de Dieu dans son cœur. C'est ça qui est important. Le Seigneur a dit à Sardes, garde la parole. Et il dit à ce chrétien de Philadelphie, tu gardes la parole. C'est beau. Tu la gardes. Et le Seigneur le loue, ce chrétien de Philadelphie, justement pour cela. Est-ce qu'on garde la parole comme une autorité dans notre vie? Est-ce qu'on veut y obéir vraiment? Si le Seigneur dit non, ne fais pas ça, je ne veux pas. Est-ce que, bien, on se repent et dit non, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Est-ce qu'on se conforme à ce que Dieu dit? Parfois, Dieu nous impose. Hein, il dit quelque chose. Ben, est-ce que je me courbe devant ce qu'il dit? C'est ça qui est important. Je ne peux jamais trop mettre l'accent sur cette vérité. Ce livre, c'est notre sécurité. C'est votre sécurité. C'est ma sécurité. Ce livre, c'est la vérité. Ça trace la ligne du bien et du mal, de la vérité et de l'erreur, de la moralité et de l'immoralité. C'est la vérité. Et notre attachement à ce livre montre si nous aimons Dieu. Celui qui m'aime, c'est quoi la suite ? Gardera ma parole. Celui qui m'aime gardera ma parole. Il est attaché à la parole de Dieu. Alors des chrétiens qui ne restent pas attachés aux Écritures, ben, ça désole. Ça désole. C'est notre attitude devant ce livre qui détermine le chrétien que nous sommes. Ensuite, le chrétien de Philadelphie, il n'a pas renié le nom de Jésus-Christ. Il lui est fidèle, fidèle au nom de Jésus-Christ. Il n'a pas peur de dire à qui il appartient. Il reste du côté du Seigneur. Il prend position pour lui, même si c'est difficile. Même si on le raille, on le moque, on le rejette, il prend position pour Jésus-Christ. Et ce n'est pas facile de tenir ferme, toujours pour Jésus-Christ. Alors que le monde fait pression hein, pour qu'on le renie d'une certaine manière, on le tait, on ne parle pas de lui. Mais le chrétien de Philadelphie, il n'abandonne pas son Seigneur. Même si ses amis s'en vont, j'ai envie de dire comme le cantique, hein, même si ses proches s'opposent à lui, il ne renie pas Jésus-Christ, même s'il y a de la pression. Et on le voit, hein, pour tous ces chrétiens qui naissent parfois dans une famille hostile à Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié, s'entend, et qui pourtant tiennent ferme, se font rejeter, mettre dehors, à la rue. À cause de tout cela, le Seigneur va faire trois choses pour cette église, ou pour ce chrétien de Philadelphie, pourrait-on dire. Premièrement, il dit « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer ». Quand on prend l'interprétation historique, l'église de Philadelphie, elle correspond à l'église du 19e, 20e. Donc c'est l'église des missions. C'est l'église où l'évangile va se répandre hein, de partout. Hein. C'est Hudson Taylor et tous les grands missionnaires qui sont partis partout dans le monde. Et donc, l'église de la mission, là où la foi en l'évangile, hein, le salut en Jésus-Christ seul s'est répandu, eh bien, ça nous renvoie à l'évangélisation quand on pense à cette porte ouverte. Et donc, ça a du sens. Hein. C'est une vérité, cette porte ouverte, l'évangélisation, porter du fruit. Quand on le prend dans ce sens-là, mais quel encouragement quand on se sent faible, quel encouragement quand on se sent une petite église, voilà, dans le Seigneur, hein, à essayer de faire ce qui est fidèle et droit, ben, c'est un encouragement. Voilà, c'est Dieu qui ouvre les portes. Mais la porte, ça peut aussi faire référence à l'éternité. C'est aussi la promesse de la vie éternelle. Et dans le contexte, c'est une promesse aussi faite à ceux qui marchent fidèlement. Oui, la porte est large, elle est ouverte. Personne ne la fermera pour le chrétien de Philadelphie. Deuxièmement, il dit, verset 9, « Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. » Et derrière ce fait du passé, donc c'est une petite église faible qui avait probablement des opposants, des ennemis. Alors là, je ne sais pas à quoi ça fait référence historiquement il y a 2000 ans. Hein. Mais en tout cas, il y a des opposants, il y a des ennemis devant cette église. Hein. Mais Dieu promet, il va y avoir un retour de situation, un retournement de situation. Ceux qui s'opposent finiront par se courber et voir qu'ils avaient tort. Et le chrétien de Philadelphie, on peut dire, il reçoit cette faveur du Seigneur. Celui qui marche avec intégrité, fidèlement, attaché à la parole de Dieu, il voit un jour ceux qui s'opposaient à lui changer. Changer d'attitude peut-être, changer de comportement, changer d'avis. Il y a une reconnaissance pour l'enfant de Dieu qui est fidèle. C'est Dieu qui le fait. Troisièmement, il dit, verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Et enfin, le chrétien de Philadelphie, il a la garantie que Dieu le gardera, même au sein de l'épreuve, même au sein de la tentation. Ici, tentation, épreuve, à chaque fois, eh bien, c'est le même mot. Hein. Et Dieu promet de traverser, Dieu promet de nous garder de l'épreuve. C'est vrai que quand on est dans l'épreuve, on voit rien. C'est le brouillard, c'est obscur, mais on a les promesses de Dieu. Et c'est pour ça que c'est important de rester attaché aux Écritures. Parce que Dieu nous nourrit intérieurement par les promesses, avec cette garantie, cette certitude qu'il est avec nous et qu'on va traverser. Et le brouillard va se désépaissir et on sera libéré. Dieu nous garde, Dieu nous protège, il est notre bouclier. Verset 11, « Je viens bientôt. » Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Parole hein, qui fait du bien à tous ceux qui l'attendent. Je viens bientôt. Amen. Amen, Joseph.
Alléluia aussi.
Alléluia. Je viens bientôt. Alors, retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as. C'est la recommandation qu'il donne à l'église de Philadelphie, aux chrétiens de Philadelphie. Et rien n'est jamais définitivement acquis dans la vie chrétienne, sauf le salut. Hein? C'était le sujet de notre petite étude ce matin, avant le culte, hein? Et je le souligne, ça, le salut, c'est définitif. Si vous êtes sauvés, c'est pour l'éternité. Ça, c'est définitif. Mais après, pour le reste, pour les récompenses, pour les couronnes, eh bien, il faut continuer le combat. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut retenir ce que nous avons. Sinon, on va le perdre. On va le perdre. Retenir, c'est persévérer et chercher à toujours progresser. Vous connaissez cette petite phrase « qui n'avance pas, recule ». Eh bien, c'est absolument vrai. « Qui n'avance pas, recule ». Quand j'étais petit, et peut-être que vous l'avez fait aussi, on aime bien prendre les choses à contre-courant, comme les escaliers, les escalators, ou les tapis roulants. Hein. Le jeu, c'est d'aller plus vite et réussir à avancer malgré le tapis qui avance, hein, dans l'autre sens. Hein. Et vous savez, ça c'est la vie. On est dans cette vie-là, nous, si nous sommes enfants de Dieu. C'est un challenge. On a le monde qui va dans un sens, hein, et voilà, il y a un bon rythme, ça avance. Hein. Et nous, on va à contre-courant. Mais si on avance, on prie, on continue avec le Seigneur, on serre la parole dans son cœur, bien on avance. On arrive à passer à contre-courant de la foule. Mais si on s'arrête, eh bien hop, le tapis, il vous emmène hein, et vous reculez. Et parfois, parce qu'on s'arrête, c'est dommage, on perd. On perd ce qu'on a sacrifié, on perd ses efforts, on perd, on a lutté pour certaines choses et puis hop, on le perd. Vous savez, c'est comme la prière. La prière, quand on a arrêté de prier, ben c'est dur de recommencer à prier. Hein. C'est un combat, hein, parce que tout en nous dit non. La chair dit non. Non, je me mettrai pas à genoux. Non, 3 minutes, 5 minutes, pas plus. C'est un combat. Et on peut vivoter comme ça dans la vie chrétienne. Mais si on gagne, si on dit non, le Seigneur veut que je m'approche de lui, j'ai besoin de lui, eh bien, on finit par gagner du terrain, on prend un rythme, et après, c'est pas dur. Après, c'est léger. On va naturellement au pied du Seigneur. On prie le temps qu'il faut, et on se relève soulagé, le cœur en paix, et en communion avec le Seigneur. Vous savez, c'est une lutte, hein. Mais si vous lâchez ça, vous le perdez. Il faut recommencer la lutte. Ne perdez pas ce que vous avez. Persévérez, persévérez. Ne lâchez rien. Ne perdez pas vos couronnes. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Verset 12. Quel beau verset. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. La colonne, c'est l'image de la stabilité. Quand vous voyez une colonne grecque là, l'image de la stabilité, c'est ce qui soutient. C'est ce qui demeure aussi. On ne la bouge pas, la colonne. Hein. Elle est posée, elle y reste. Hein. Vous voyez, en Grèce, il y a des colonnes qui y sont depuis des centaines et des milliers. Ça ne bouge pas. C'est ce sur quoi aussi on peut s'appuyer. Sauf si on s'appelle Samson. Mais sinon, on peut s'appuyer sur elle. Ça inspire confiance, la colonne. Et quelle grâce, il dit qu'on deviendra une colonne dans le temple du Dieu vivant. Voilà, on sera des colonnes pour l'éternité si on vainc, si on persévère, si on va jusqu'au bout. Il n'en sortira plus. Merveilleux. Et puis notre Seigneur réaffirme que nous serons à lui pour toujours. Quand on met un nom quelque part, c'est que ça nous appartient. Vous mettez un nom dans votre Bible, c'est votre Bible. On ouvre, on voit votre prénom. Ah, on sait, ah tiens, c'est la Bible d'un tel. Quand vous avez votre carte grise, vous l'ouvrez, vous avez votre nom, c'est votre voiture. Quand il y a un nom quelque part, eh bien, ça, c'est un signe d'appartenance. Il va mettre le nom du Père, le nom du Fils sur nous. C'est, voilà, il faut croire que ça sera visible. C'est, aujourd'hui, c'est invisible. Hein, vous passez dans la rue, personne ne peut le voir. Mais ça sera une évidence. Nous sommes au Dieu vivant, serviteurs du Dieu vivant. Vous savez, quand vous voyez les anges, hein, un vrai ange de Dieu, vous ne vous posez pas la question. Hein, oh, c'est un ange de Dieu. Hein, il y a une différence. Hein. Eh bien, ça sera la même chose pour nous. Aussi, il dit qu'il y aura le nom de la ville de Dieu, la Nouvelle Jérusalem. Quand vous avez le nom d'un lieu, eh bien, c'est vous l'avez sur vous. Eh bien, c'est les portes ouvertes. Vous avez un passeport, je ne sais pas, d'Australie ou des États-Unis ou d'ailleurs, ben c'est signe que vous pouvez entrer librement et sortir. Hein. Voilà, vous êtes de ce pays-là, vous êtes libre. Eh bien, nous, on aura le nom de la Nouvelle Jérusalem. C'est chez nous. On est libre, on entre, on sort, on est libre. Il n'entrera rien de souillé, rien d'impur, mais nous, on entrera librement, sanctifiés par le sang de l'agneau. Alors je termine. Mais qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Parce que le chrétien de Thyatire, qui est pourtant une bonne personne, qui croit, qui aime, qui sert, est-ce qu'elle va pouvoir y entrer? avec ses nombreuses qualités. Si on ne tolère pas du mélange, de l'idolâtrie, le gris, la débauche, le mensonge, l'erreur, Seigneur dit, eh bien, on ne peut pas rentrer, à moins que nous nous repentons. Ce n'est pas le chrétien de Sardes qui passe pour être vivant, mais alors qu'il est mort, qui entrera dans cette nouvelle Jérusalem, à moins de revenir à la parole, de la garder, de la serrer dans son cœur, de se repentir. Par la repentance, la foi et un cœur qui s'attache à la Bible, eh bien, on peut devenir un chrétien de Philadelphie, qui lui, eh bien, entrera librement dans les portes qui lui seront ouvertes. Verset 13, « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. » Je m'arrête là et on continuera pour la dernière lettre dimanche prochain. On va avoir un moment de prière. Si vous voulez rendre grâce, louer le Seigneur, vous pouvez le faire librement.